votre programme avec Salva Bagarance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Henri Proglio, l'ancien patron de Veolia et surtout l'ancien patron d'EDF. Bonsoir Henri Proglio.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous parce qu'en plus, c'est une semaine en ce moment un petit peu compliquée pour vous puisque vous êtes au cœur de votre procès. On va y revenir forcément dans un instant. Vous publiez l'étrange débâcle, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique. J'ai envie de dire, c'est le tome 2 de la débâcle d'EDF que vous avez présidé, on va le rappeler, de novembre 2014, voilà, je vais y arriver. C'est même Emmanuel Macron qui a donné un grand coup de balai, vous nous direz pourquoi peut-être. C'est donc le tome 2, après les joyaux de la couronne, il y aura peut-être un tome 3, vous nous direz pourquoi. Juste un mot d'abord sur votre procès, un procès pour favoritisme. Est-ce que vous comprenez les termes de ce procès ou pas?
Pas vraiment. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je réserve évidemment mes commentaires au tribunal. C'est un procès, au fond, qui met en cause certains contrats qui ont été passés lors de ma présidence d'EDF, c'est-à-dire qu'on revient 15 ans en arrière.
20 millions pour favoritisme, oui, absolument. C'est-à-dire que vous avez passé des contrats avec des boîtes d'intelligence économique,
des prestataires. Des prestataires divers. Enfin, c'est une toute petite partie des contrats passés par EDF à l'époque. Oui. La vérité, c'est vrai, enfin, je l'ai précisé lors de ce procès. Ce procès porte sur ces fameux contrats qui représentent au total 22 millions sur les 5 ans, ce qui est à la fois beaucoup d'argent quand on considère la masse en valeur absolue et qui en fait représente 0,005%.
Mais vous en aviez besoin pourquoi? Qu'est-ce qui vous apportait? Est-ce que c'était une manière de les neutraliser parce qu'il y avait tous les plus grands mots de la place, de la communication?
Non, pas du tout. Mais ça, je l'ai expliqué. Chaque contrat a sa justification. Mm-hmm. Chaque contrat... Enfin, ces contrats étaient des contrats qui ont été confiés à des prestataires externes qui étaient des experts en la matière.
Reconnus, mais donc certains, on peut dire que c'est une manière aussi d'empêcher qu'ils vous nuisent.
Non, pas du tout. Mais enfin, ça, encore une fois, ne rentrons pas dans le détail. Mm-hmm. Je dis que ma bonne foi ne peut en aucune manière être mise en cause. Et je pense que le tribunal le reconnaîtra. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, à ce stade.
Ça veut dire que quand on est patron d'EDF, on a besoin. Vous êtes un homme de réseau, vous connaissez tout le monde, Henri Proglio. C'est pour ça que vous étiez intéressant aussi à interviewer. C'est que vous avez des avis sur beaucoup de sujets, vous avez des connaissances sur beaucoup de sujets. Quand on est patron d'EDF, est-ce que ça veut dire qu'on est un peu une sorte de ministre de l'énergie bis, ou le vrai ministre de l'énergie bis? On a besoin, comme tout ça, c'est des nominations politiques, on a besoin d'avoir tous ces réseaux?
Ah non, mais quand on est patron d'EDF, on n'a pas besoin d'acheter des réseaux. Enfin, je veux dire, voilà, dégonflons la baudruche. Non, quand on est patron d'EDF, on est un patron opérationnel d'une grande entreprise qui est, au fond, la référence en matière d'électricité dans le monde. Donc, la mission d'EDF, c'est non seulement le service public de l'électricité, mais c'est aussi de tirer l'industrie française et en donnant un atout compétitif considérable à la France.
Alors, vous publiez donc l'étrange... débâcle chez Michel Lafon, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique. Il y a beaucoup d'actualités autour d'EDF. Hein. Il y a notamment le rachat des fameuses turbines Arabel. Il y a aussi l'ouverture de, enfin, l'inauguration de Flamanville. Il y a aussi le projet du siècle, le contrat du siècle, avec ses 6 EPR en perspective. Vous commencez par votre propos liminaire, votre avant-propos, c'est sur le retrait forcé de la cote.
Oui, j'ai regretté.
Vous dites ça, en fait, ça affaiblit la signature de la France. Donc j'ai envie de dire, on va commencer par là, parce qu'elle a été affaiblie depuis vendredi dernier par une autre agence de notation. Mais est-ce que pour vous, c'est si important que EDF soit coté?
C'était important. Ça avait un sens, parce que ça donnait à l'entreprise et à son président la possibilité, au fond, d'être en quelque sorte une entreprise de plein exercice et d'avoir un devoir fiduciaire vis-à-vis de l'ensemble des actionnaires et pas uniquement les actionnaires État. Aujourd'hui, du fait de la disparition de la cotation, du fait d'avoir un seul actionnaire, au fond, c'est l'État qui est... On redevient une quasi-administration.
Donc pour vous, le vrai patron d'EDF, c'est Bruno Le Maire ou le patron de la PE?
Non, le vrai patron d'EDF, c'est le patron d'EDF, mais il aura beaucoup moins de force pour faire valoir ses avis vis-à-vis de l'État actionnaire.
Quel jugement vous portez sur Lecrémant, qui a eu du mal, hein, qui a dit de manière, je serais PDG ou rien du tout, parce qu'on voulait qu'il soit directeur général.
Mais ça, il a raison.
Est-ce que vous trouvez qu'il arrive à redorer un peu le blason d'EDF ou pas encore?
Luc Clément, il y a une immense tâche à accomplir. Il s'y donne totalement. Bon, je lui donne acte de son dévouement total à l'entreprise. Ouais.
Là, vous ne répondez pas complètement. Enfin, si non, vous répondez en creux à ma question, je veux dire, c'est...
On répond en bosse à la question une fois que le président a fini son mandat. Avant, c'est compliqué. Enfin, on peut dire il a l'air d'eux. Mais c'est les actes et les faits qui le prouveront.
Mais quand vous dites, à vos titres, l'étrange débâcle, ça veut dire que pour vous, EDF, aujourd'hui, c'est plus la grande entreprise que tout le monde nous enviait dans le monde. Aujourd'hui, c'est tout petit, quoi.
Non, j'ai pas dit que c'est petit. J'ai dit que EDF est beaucoup plus vulnérable et beaucoup moins puissante qu'elle n'a été. Mais ça, c'est un avis partagé par tous les observateurs. Ils font le constat. Ouais. EDF a été la référence.
Elle n'est plus aujourd'hui.
Elle est beaucoup moins. C'était la référence du nucléaire mondial, c'était la référence du contrat de service public qui a disparu. Et donc, au fond, c'est vrai que EDF d'aujourd'hui se bat pour rester l'entreprise, la meilleure entreprise électrique du monde. Et c'est vrai que je rends hommage à tous les collaborateurs de cette maison qui...
Mais est-ce qu'elle est encore dans la course? Parce qu'on parle beaucoup du fait que les compétences ont disparu, en fait.
Elles se sont... À certains égards affaibli. Quand vous regardez le nucléaire et que vous voyez qu'il y a eu une politique anti-nucléaire, il faut appeler un chat au cours des 12-13 dernières années, on ne peut pas dire que ça aide l'entreprise à renforcer ses compétences et son image. Quand vous savez que EDF ne surpaye pas ses collaborateurs, loin de là, et qu'entre l'industrie et la finance, il y a un gap considérable en matière de rémunération et de revenus, et qu'entre EDF et l'industrie, il y a un autre gap, il est clair que pendant le temps où le mot d'ordre était de dire le nucléaire n'a pas d'avenir, il faut réduire la part du nucléaire...
Donc
évidemment,
les compétences ont fui.
Ça n'aide pas à recruter les meilleurs éléments. Et Dieu sait que la France peut avoir de très bons éléments en matière d'école d'ingénieurs. Évidemment, ça n'est pas... Quand vous avez honte du métier que vous exercez, que vous avez des difficultés à être comparable aux autres en matière de revenus, et qu'on vous dit en permanence que vous n'avez pas d'avenir, c'est sûr que ça n'aide pas beaucoup.
Le fond du trou, pour vous, ça a été la fermeture de Fessenheim, qui a été décision prise par François Hollande, mais qui a été appliquée par Emmanuel Macron.
C'est pas le fond du trou, c'est un acte symbolique.
Oui, mais est-ce que justement, il caractérise la débâcle d'EDF?
Non, il caractérise l'antinucléarisme du gouvernement français.
Oui, mais donc ça a provoqué sa chute. Je parle d'EDF.
Ça a provoqué, non, ça a abîmé EDF. La chute n'est pas arrivée, mais ça a abîmé EDF, c'est clair que ça a abîmé EDF.
Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on est complètement dans un tempo totalement différent, puisque maintenant, c'est le chantier du siècle, EDF doit construire 6 EPR, il devait être inauguré demain, mais peut-être incessamment sous peu, il y a l'EPR de Flamanville, enfin, j'ai envie de dire. Et puis là, on a appris vendredi le rachat des fameuses turbines d'Arabelle, qui avaient été vendues par la France, et puis maintenant qui est rachetée à GE. Est-ce que pour vous c'est une très bonne nouvelle?
C'est une nouvelle. La bonne nouvelle eût été que la France continue à considérer le nucléaire comme une industrie forte, une industrie d'avenir, et que, comme vous savez, le nucléaire c'est une industrie qui exige une vision à long terme. C'est pas une industrie qui peut s'accommoder de sinusoïdes et d'hésitations d'aller-retour.
Ouais.
Et au fond, ce que je déplore, et c'est ce que j'ai dit à la commission d'enquête parlementaire, c'est ce que je redis ici, c'est qu'au fond, les raisons de la perte de la souveraineté énergétique de la France, qu'on a constaté au cours des dernières années, en fait.
Mais pour vous, c'est un scandale qu'on ait vendu, justement, cette turbine Arabelle?
C'est une faute.
Oui.
Scandale, le terme est beaucoup est trop fort.
Parce qu'on paye très cher ce qu'on a
On paye plus cher ce qu'on a vendu, et entre-temps... on s'est coupé au fond de nos principaux clients, parce que les gens qui construisent Arabelle, ce sont les meilleures turbines qui existent dans le monde en matière de production d'électricité nucléaire. Qui sont les acheteurs? Les Chinois et les Russes. Ceux qui construisent des centrales nucléaires et qui achètent des turbines. Évidemment, comme on s'est brouillé avec les deux, c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'avoir un plan de charge pour les turbines qu'on aurait pu les avoir si on avait continué, si on avait eu un continuum, je dirais, logique d'entreprise.
Tiens, juste une petite parenthèse. Est-ce que, sur le dossier Hinkley-Point que vous connaissez bien, est-ce qu'il fallait vraiment le faire pour maintenir les compétences, comme le disait Pierre Gadonext, est-ce que vous trouvez que ça a été une erreur de faire Hinkley-Point et que ça va coûter très, très cher à EDF?
D'abord, EDF, sous la présidence de Pierre Gadonext, a pris le contrôle de ce qui s'appelait autrefois British Energy, devenu EDF Energy, c'est-à-dire de l'ensemble de la production électronucléaire britannique. À partir de là, il me paraissait nécessaire d'être, au fond, au rendez-vous du futur nucléaire britannique.
Parce que, donc vous avez soutenu.
Donc je l'ai soutenu.
Oui, bien sûr.
Je l'ai soutenu et j'ai négocié le contrat.
Hinkley-Point. D'où ma question.
Donc il fallait le faire.
D'avoir indexé le coût de l'énergie, enfin le prix, c'est ça qui va coûter très très cher à EDF.
C'est beaucoup de choses. Dans le contrat que j'avais négocié avec les Britanniques, et avec le Premier ministre devenu entre-temps ministre des Affaires étrangères, ce contrat reposait sur plusieurs socles, socle, trois piliers. Ouais. Le premier pilier, c'était le prix garanti par la Grande-Bretagne pour les 35 ans d'exercice. C'était les 92,50 livres, ce qui était très supérieur au prix du marché. Ouais. Oui, mais... Le deuxième, c'était la déconsolidation, c'est-à-dire que j'avais obtenu l'accord des Britanniques pour que EDF n'ait pas le contrôle, mais se limite à 45%.
Et là, c'est plus le cas.
Troisièmement, l'accord de la Banque d'Angleterre, ou en fait le gouvernement britannique, pour garantir la dette. Ouais. Les deux derniers piliers ont disparu.
Ont disparu, et c'est pour ça que ça coûte très très cher. Vous pensez que ça va coûter combien, les deux à EDF?
Oh, je ne veux pas être au réseau de mauvais augure. Je pense que ça va coûter...
Combien?
Beaucoup d'argent.
Mais c'est-à-dire?
Je ne sais pas quelle va être... D'abord, il faudrait savoir quel va être le coût d'investissement des EPR concernés.
On voit que c'est difficile pour vous quand même, Henri Proglio, sur ce sujet. Mais en même temps, vous avez l'idée. Dites-nous l'idée.
Non, mais ça sera entre 10 et plusieurs dizaines de milliards.
Oui, c'est entre 10 et 50, quoi.
Oui, 50, c'est peut-être excessif.
Enfin. Oui. Ça veut dire que, en fait, c'est une erreur que vous avez faite. Il n'aurait pas fallu signer, mais vous pouvez pas. On ne peut jamais prédire l'avenir.
Non. J'ai quitté l'entreprise à un moment où les conditions contractuelles étaient, en principe, beaucoup mieux bordées qu'actuellement.
Ouais.
C'est tout. Je vous ai dit les conditions qui m'avaient conduit à signer. Elles ne sont plus réunies aujourd'hui.
Est-ce que c'est, pour vous, ce qui a contribué à cette débâcle, encore une fois, cette étrange débâcle, c'est notamment c'est l'AREN, cette tarification. Là, maintenant, c'est la fin de l'AREN, il y a une nouvelle régulation. Est-ce que vous dites, ouf, ça y est, enfin on sort de l'AREN? Et puis, il y a cette nouvelle tarification, nouvelle régulation souhaitée par votre successeur, Luc Rémont. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Non, mais qu'on change les règles du jeu en matière de tarification, c'est une chose qui était indispensable.
Ouais.
Maintenant, si on regarde le sujet dans son ensemble, c'est-à-dire au fond, quelles sont à l'origine des problèmes actuels. L'origine des problèmes actuels, ça a été la doctrine bruxelloise de la concurrence. EDF était un merveilleux outil quand c'était un monopole exerçant un service public au service des Français. Et on avait à la fois la capacité... On avait la surcapacité qui faisait de nous le premier exportateur d'électricité en Europe, avec le prix le moins cher d'Europe. Bon. Et puis, d'un seul coup, on nous a dit « Ah non, mais, doctrine bruxelloise oblige, la concurrence s'impose. La concurrence fait le bonheur des peuples. Donc, vous n'êtes plus autorisé à être un monopole. » Et on nous a imposé une règle du jeu absurde, qui était insupportable pour n'importe quelle industrie, qui était de vendre notre énergie à moitié... tout son prix de revient, à des concurrents qui, eux, n'avaient aucune obligation.
En fonction, oui. Mais néanmoins, est-ce que là, maintenant, la nouvelle politique tarifaire qui a réussi à imposer au forceps, Luc Rémont, est-ce que là, elle vous paraît bonne?
Elle est déjà beaucoup plus satisfaisante. Ouais. Mais il ne reste pas moins que EDF reste le seul, pratiquement le seul producteur d'électricité en France, enfin, à l'exception un petit peu de renouvelables, et que toute cette je dirais gesticulation autour des prix est un sujet qui doit faire remuer dans sa tombe Marcel Boiteux, qui avait formalisé
le premier dirigeant d'EDF. Peut-être en conclusion, si on, puisque c'est étrange débat, encore une fois pour reprendre le titre de votre livre, c'est de dire que c'est les politiques quand même derrière qui sont largement responsables, même s'il y a des erreurs qui ont été commises ici, sans doute par les présidents d'EDF, mais c'est les politiques, cette vision court-termiste que vous dénoncez du reste dans votre livre, d'une manière assez vigoureuse.
Bien sûr.
C'est eux qui ont tué EDF, hein, pas tué, parce que c'est en train de renaître de ses cendres, mais...
Non, mais c'est toute la réglementation européenne qui a été imaginée par les Allemands contre
EDF. Ouais, ben, les Français n'ont pas su résister.
Ben voilà. Quand on me dit les Allemands sont des horribles... Non, les Allemands ont défendu l'Allemagne. Et ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, je peux le répéter aujourd'hui, je regrette que le gouvernement français n'ait pas défendu la France.
Oui, c'est ça. Donc on est d'accord. En fait, les politiques n'ont pas réussi à défendre l'EDF, du moins le nucléaire. Là, c'est un peu la revanche du nucléaire.
Non, ce n'est pas la revanche du nucléaire.
Ben si.
J'ai toujours dit que le nucléaire était une industrie d'avenir. Mmh. Ça se confirme. Mmh. Il n'y a pas de revanche. Le nucléaire est une industrie qui avait vocation à se développer. Et je l'ai toujours pensé. Ouais. Aujourd'hui, on en voit l'émergence dans à peu près tous les pays, à commencer par les pays fortement peuplés, mais même les pays pétroliers.
Est-ce que, on a une dernière question, les 6 EPR, là, c'est ce qui va être, justement, va permettre la renaissance d'EDF ?
Non, enfin... Où est l'intérêt de la France ? Oublions un instant de raison EDF, qui est la France en matière d'électricité. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la durée de vie, d'étendre la durée de vie du parc nucléaire français. Ouais. Et ça coûtera une soixantaine de milliards. C'est un investissement mineur par rapport au remplacement des réacteurs. Donc, si on veut sauvegarder le pouvoir d'achat des Français, faisons d'abord l'essentiel, c'est-à-dire... Admettons qu'il faut investir de manière à prolonger la durée de vie du parc et maintenir le prix de l'électricité à un niveau dont il n'aurait pas dû évoluer depuis des années. Puisqu'au fond, on voit qu'aujourd'hui, le renouvelable n'est pas indispensable, contrairement à ce qu'on nous raconte. Les besoins en électricité n'ont pas augmenté. Bon. Donc la vérité, c'est que le parc existant, qui existait il y a 10 ans déjà, suffisait à satisfaire les besoins de la France, et qu'il faudrait à la fois investir pour que ce parc dure, et en même temps prévoir l'avenir.